Le chef-d'œuvre numéro 11. Où faites-vous reposer votre foi? Dimanche 26 juin 2005. Rêve. Brian Kozurek. Ce matin, je voudrais continuer avec notre étude du sermon de frère Branham, le chef-d'œuvre. Sester le 11e de notre série. Et nous venons de quitter la prière d'ouverture où frère Branham a introduit brièvement son sujet. Je voudrais lire une déclaration qu'il a faite au paragraphe 10 parce qu'elle vaut la peine d'être examinée et d'être méditée. Dans le chef-d'œuvre au paragraphe 10, nous lisons, or, nous devons trouver un endroit où faire reposer notre foi. Or il continue et dit que nous pourrions faire reposer notre foi dans le fait de faire des millions de dollars, mais ensuite qu'allons-nous en faire? Nous n'y pouvons pas les prendre avec nous, dans la mort, alors à quoi cela nous sert-il vraiment? Et il dit, et si six mois ou n'importe lequel d'entre nous, dans la vie, nous cherchions à réussir dans la vie, et que nous devenions bien des fois multimillionnaires, mais qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Il nous faudra arriver au bout du chemin. Et à quoi est-ce que ça va nous servir à ce moment-là? Voyez? Et l'argent? C'est un titre provisoire? C'est un moyen d'échange? Mais on ne peut pas l'échanger contre la vie. Dieu seul possède la vie. Or c'est ici la véritable question que nous devons nous poser aujourd'hui. Il a dit, nous devons trouver un endroit où faire reposer notre foi. Ainsi la question que je vous pose ce matin, c'est où faites-vous reposer votre foi? Souvenez-vous d'hier soir où frère Branham a dit qu'il vivait en observant les petites choses, parce que Jésus nous a promis que toutes choses travaillent ensemble pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés, nommés, désignés par le Seigneur. Et nous manquons Dieu tant de fois en manquant les petites choses qu'il fait dans de nos vies. Il semble que nous nous focalisons tellement sur les grandes choses, les choses admirables, les choses formidables, tout en sachant que Dieu se cache dans la simplicité, et nous avons même témoigné de cela et pourtant quand on en vient à nos propres vies, il semble que nous avons nos pensées ailleurs que sur les petites choses. Mais ce sont les petits renards qui gâchent la vigne, et ce sont les petites choses qui, si elles ne sont pas faites, nous détruiront. Et c'est dans les petites choses que Dieu se fait connaître. Quand Élie voulut consulter Dieu, il pria Dieu avec ardeur pour une réponse. Alors vinrent les éclairs, puis les tonnerres, puis la terre trembla et le vent souffla vraiment comme une tornade. Et cependant il n'aimait vit Dieu dans aucun de ces choses. Mais quand il entendit cette douce petite voix, il sut immédiatement que Dieu lui parlait et qu'il devait se tenir tranquille pour entendre la voix de Dieu. Influence 64-0315p, 40. Voici un bon exemple. Soyez toujours conscient de votre petitesse, non de votre grandeur. Aujourd'hui, nous les Américains tellement, que nous essayons de penser que nous sommes grands. Nous appartenons à quelque chose de grand, une grande organisation. Que quelque chose de grand doit. Tout grand, 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 c'est tout ce que nous voyons. Et quand, une fois dans la Bible nous en avons un exemple. Il y avait un prophète qui s'est retiré dans une grotte, Élie. Et Dieu essayait d'attirer son attention à sortir. Et voilà venir le feu, et la fumée, et des vents violents sur toute la montagne, et le tonnerre, et des tremblements de terre, et des secousses et tout. Le prophète ne m'y branchait même pas. Dieu n'était même pas dans cela. Mais quand cette douce petite voix parla, il couvrit son visage et s'avança. Quand la douce petite voix de Dieu parle, non pas du vacarme, non pas de grande dénomination, non pas nos grandes choses, mais cette douce petite voix de la parole qui est à négliger, qui doit appeler un homme à la repentance. Dieu est dans sa parole. Cependant il couvrit ses pieds et devint conscient de son notre petitesse devant Dieu. Le messager du soir 63-016p93 remarquait des grands bruits, mais cela n'attira pas le prophète. Le prophète Néhémie se soucia pas des grands bruits. Mais quand il entendit cette douce petite voix, il sut que c'était la parole. Il voila son visage et sortit en marchant. Vous savez, le soleil peut sécher plus d'eau en 15 minutes, sans aucun bruit du tout, que plus que tout. Et nous faisons plus de bruit en puisant un gallon d'eau que le soleil en fait pour 1 million de barils. C'est-ce vrai? Nous cherchons toujours quelque chose qui est de grand et beaucoup de hurrah et beaucoup de bruit. Et quand on en vient au fait de prendre la parole, voici alors la chose qui est termée sur le tapis. Vous voyez, soulevez, et ils disent, eh bien, que Dieu soit béni, je vous dis. Comme je le disais au tout début de ce message, frère Branham a dit, nous devons trouver un endroit où faire reposer notre foi. Ainsi, la question est celle-ci, où faisons-nous reposer notre foi? Nous savons que la foi est une révélation, parce que frère Branham nous l'a dit dans plusieurs sermons qu'il a prêché fin 1965, en commençant par les oins du temps de la fin. Les oins du temps de la fin M25.07.96553 qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé, qui n'est pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. La foi, c'est une révélation de la volonté de Dieu. Donc, par révélation. 54 et les églises d'aujourd'hui Néhémie croient même pas à la révélation spirituelle. Elles croient à un enseignement dogmatique d'un système quelconque. Par révélation, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est ainsi que Dieu rendit témoignage qu'il était juste. Amen. J'espère que vous voyez ça. Vous voyez où nous vivons? Vous voyez l'heure? Maintenant, je veux que vous remarquiez l'exemple que frère Branham nous a donné. Il a cité Hébreux 11. 4 Sester, par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Sester par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et Sester par elle qu'il parle encore, quoique mort. Remarquez qu'il nous Esther dit que le sacrifice d'Abel était un sacrifice plus excellent que le sacrifice de Caïn. C'est-à-dire que le sacrifice de Caïn devait être un excellent sacrifice. Si le sacrifice d'Abel était plus excellent que celui de Caïn. Pour que ce soit plus excellent, l'autre devait être excellent. Et le sacrifice de Caïn était un excellent sacrifice parce que c'était Deutéronome 26 l'offrande des prémices des fruits de la terre. Ainsi le sacrifice de Caïn était très biblique. Par conséquent, Caïn était un croyant fondamentaliste. Deutéronome 26. Hein, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, de tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu les mettras dans une corbeille. Et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Remarquez qu'aucun offrit à Dieu une offrande des prémices des fruits de la terre ce qui est une offrande de la moisson ou une offrande de la résurrection. Parce que la moisson représente le temps de la résurrection quand les moissonneurs viendront et moissonneront la récolte. Mais sa révélation est à hors saison. Car sans l'effusion de sang il n'y a pas rémission des péchés. Et il n'y aura pas de résurrection à la vie sans le sacrifice de sang fait une fois pour toutes. Ainsi le sacrifice de Caïn, bien qu'il soit excellent, était hors saison. Et quand Caïn eut un fils, il l'appela Enoch. Mais cet Enoch n'était pas l'Enoch d'Adam qui sera pris dans le premier enlèvement. Mais Caïn était un fondamentaliste, et il croyait les Écritures, et il pouvait les lire dans les étoiles comme Adam, et tous ceux qui vécurent jadis. À qui on avait appris à faire ainsi. Mais Jean a dit qu'il tua son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises. 1 Jean 3:11 Car ce qui vous a été annoncé est ce que vous avez entendu dès le commencement. C'est-à-dire que nous devons nous aimer les uns les autres. 12 Et Néhémie pas ressemblé à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Maintenant, ici n'est-ce pas dit que le meurtre de son frère était la mauvaise œuvre, mais qu'il tua son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et quelles étaient ces mauvaises œuvres? Le même apôtre qui a écrit cette épître a également écrit l'évangile selon Jean, et a dit, Jean 3:19 et ce jugement c'est-à-dire que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils n'y viendront pas à la lumière parce qu'ils pensent avoir une meilleure compréhension de la parole. Il offrit ainsi à Dieu un excellent sacrifice, et cependant l'apôtre Jean le qualifia de mauvais sacrifice. Et ce même Jean a dit que l'évidence de la semence de Dieu, c'est l'amour, et que Caïn n'est pas un exemple de l'amour. En fait, si vous observez l'esprit qui est sur lui, vous verrez que comme Dieu n'a pas accepté son sacrifice, il se fâcha et tua son frère. Ce n'est pas de l'amour, et c'est exactement ce que Jean a fait remarquer, que Caïn n'est pas un exemple d'amour fraternel. L'amour fraternel différenciera celui qui est la semence de Dieu de celui qui n'est émis l'ester pas. L'apôtre Paul a dit dans Corinthiens 13:13, « Or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc cela commence par la foi, mais cette foi doit produire l'espérance, qui est une attente fervente, puis cette fervente attente s'exprime par le fait de donner, ce que Paul appelle l'amour ou la charité. La première chose, c'est la foi, ce qui est une révélation, et puis si cette foi est une révélation authentique, cela se développera en une attente fervente. Car si vraiment vous croyez une chose alors vous attendez avec ferveur que cette chose se réalise, et ce que cela produit c'est ce qui est appelé l'amour. Dans les Écritures l'amour est toujours caractérisé par le fait de donner. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Si un homme a une révélation qu'une certaine femme sera son épouse, cela développera en lui une attente fervente qui l'incitera à donner. Alors, le fait de donner exprime, en fait, la révélation. De même que votre sacrifice exprime votre révélation. Vous voyez, votre sacrifice est la conséquence de ce qui vous a été révélé. Et vous devenez votre révélation. Abel offrit à Dieu le sacrifice d'un agneau sanglant, mourant, et l'Esther simplement devenu ce sacrifice. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ 25 novembre 1965 frère Branham, 1015 qu'Esther ce qu'une révélation? Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts Néhémie prévaudront point contre elle. La foi Esther une révélation, parce que la foi vous a été révélée. Abel, par la foi, offrit par révélation. Par la foi, il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Son 16 Caïn croyait qu'ils avaient mangé des pommes. On a encore cette idée, mais ce n'était pas le cas. C'était un adultère, la semence du serpent. Et là, l'ouverture des 7 sceaux l'a déclaré éprouvé. Mon livre là-dessus vient de sortir. Je crois que nous en avons 1 millier d'exemplaires maintenant. Remarquez, Sester Scripturaire. De la Genèse à l'Apocalypse. Au temps de la fin, les deux arbres produisent leurs semences, révélant ce qu'ils sont. Maintenant, si vraiment quelque chose vous est à révéler, alors cela produira en vous une attente fervente, ce qui est à l'espérance, et s'il en est ainsi, alors cela finira par l'expression de l'amour. Ainsi donc, si les sacrifices que nous offrons à Dieu Néhémie viennent pas d'une expression de l'amour, alors ils sont inutiles pour nous et pour Dieu. Paul a dit, « Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, à quoi cela me sert-il ? » Et remarquez que les œuvres de Caïn n'étaient pas l'expression de l'amour, car quand l'occasion lui fut donnée de bien faire, il la rejeta et tua son frère pour l'écarter de la compétition, de l'attention de Dieu. Et combien de prédicateurs ont fait la même chose en cette heure ? Quand ils savent qu'ils n'ont pas toute la vérité, ils s'en prennent à l'homme et essaient de détruire son influence. Or cela ne vous rapprochera pas de Dieu. Alors pourquoi faire une chose si stupide ? Les œuvres sont l'expression de la foi. 65-1126 p. 50 dans 1, auditoire de Jean, là où il y a une ligne de prière. Vous trouverez des, et ils sont tous des braves gens, nous dirons. Il y en a qui essaient vraiment d'y croire, essayant de faire de leur mieux pour croire. Certains n'y arrivent pas du tout. Et d'autres, s'estèrent simplement par grâce, cela leur estèrent tout simplement donné. Or, voilà toute la différence. Vous voyez, ça fait toute la différence. S'estèrent la véritable révélation, parce que la foi, Esther une révélation de Dieu. Cela doit être révélé premièrement. Et dans l'enlèvement 4 décembre 1965, frère Branham a dit, 65 mai pour l'église, l'épouse. L'enlèvement Esther une révélation. Cela lui Esther révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. 66 Esther une révélation. Car la révélation Esther la foi. Vous Néhémie pouvez pas avoir une révélation, sans que cela soit la foi. La foi Esther une révélation, parce que c'Esther quelque chose qui vous Esther révélé. La foi Esther une révélation. La foi, c'Esther quelque chose qui vous une a été révélé, comme cela le fut Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n'existant pas. C'est-à-dire cela qu'est-ce la foi, c'est-à-dire la révélation de Dieu. L'église est-elle bâtie sur une révélation, le corps tout entier l'est-elle. Et frère Branham a dit dans ce sermon le chef-d'œuvre, nous devons trouver un endroit où faire reposer notre foi. La question auquel je veux que vous réfléchissiez ce matin, Sester, où faites-vous reposer votre foi? Sur quoi votre foi se repose-t-elle? Parce que ça vous indiquera votre destination. Vous voyez? Si vous aviez une foi, alors il doit y avoir une fervente attente. Et si tel est le cas, alors qu'attendez-vous avec ferveur? Quelle est votre espérance? Et s'il y a une espérance, alors cette espérance se manifestera par les choses que vous faites. Maintenant, l'apôtre Paul a dit, Romains 8, 24, car nous avons été sauvés en espérance, Darby, mais je pensais qu'il a dit, Éphésiens 1, 2, 8, car c'est par la grâce que, vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela n'y vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ainsi vous voyez que c'est vraiment par grâce que nous sommes sauvés, parce que ce n'est pas ce que nous avons fait mais ce qu'il a fait pour nous, et la grâce qui nous est donnée, l'Esther par sa foi dans le Père pour garder sa parole. Et si nous avons sa foi et si c'est vraiment authentique, alors de cette foi sortira une espérance ou une fervente attente, et de cette fervente attente sortira une expression qui aura pour résultat un acte d'amour. Et c'est pourquoi ce même apôtre pouvait dire aux Romains 8, 24 car nous avons été sauvés en espérance, or une espérance qu'on voit n'est-ce pas une espérance? Car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il? 25 Mais si ce que nous n'y voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. Martin Luther a dit, l'espérance signifie une très intense attente. L'espérance, qui grandit de la fervente envie de ce qui est fortement désiré, rend l'amour plus grand par la distance qui la sépare. À travers une telle espérance forte en tension, il se crée, pour ainsi dire, une unité entre celui qui espère et ce qu'il espère. Et Paul a dit si vous le voyez, alors vous n'aimez l'espérer plus. Si vous le voyez, vous n'aimez l'attendez plus avec la même ferveur que quand ce n'est-ce pas là. C'est-ce pourquoi l'espérance? C'est-ce ce qui n'est-ce pas vu? Et cependant elle est-ce attendue avec ferveur, comme ce qui n'est-ce pas encore arrivé. Mais quand elle en arrive à ce point, alors l'amour prend la relève, alors commence la disposition à donner. Et comme frère Branham l'a dit, votre foi doit avoir un endroit où elle se repose. Nous devons trouver un endroit où faire reposer notre foi. Car là où vous faites reposer votre foi, c'est-à-dire de là que vous tirez l'attente fervente. Question et réponse COD M003.01.954 Maintenant, remarquez alors que quand ils ont été capturés et déportés à Babylone parce qu'ils ont essayé d'imiter les nations du monde. Quel joli tableau d'aujourd'hui, de l'Église qui essaie d'imiter le monde là-dehors, et qui est emportée, dans leur tir et leur manière de vivre. L'Église vit tout comme le monde, faisant des histoires, agissant tout comme le monde, et tout, et prétendant être l'Église. Vous n'y pouvez pas le faire. Non monsieur. Votre vie même prouve ce que vous êtes. Ce que vous êtes. Comme je l'ai dit au commencement, ce que vous êtes ailleurs, c'est-à-dire ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, c'est-à-dire ce que votre corps céleste ou terrestre est là-haut. Ce qui est-à-dire votre corps céleste ailleurs, c'est-à-dire ce que vous reflétez ici. Dans le monde de l'esprit, ce que vous êtes, c'est-à-dire ce que vous êtes ici. Si vous avez encore un esprit vulgaire et ainsi de suite dans le monde de l'esprit, vous avez un esprit vulgaire ici. Si vous avez toujours de la malice, de la jalousie, et des querelles, vous avez cela dans le monde de l'esprit, cela se reflète ici. Mais si tout votre être intérieur est épuré et purifié, cela montre que vous avez un corps là-haut qui vous attend, qui a été épuré et purifié. Et cela réagit dans la chair. Néhémie voyez-vous pas? Vous voyez? Le voilà. Si cette tente terrestre est détruite, nous en avons un autre qui nous attend. Vous voyez? Question et réponse numéro 1M03.01.954-77 Remarqué. Alors qu'ils étaient capturés et emportés à Babylone, parce qu'ils avaient essayé d'imiter les nations du monde. Quelle belle image de l'Église d'aujourd'hui qui essaie d'imiter le monde là-bas, et qui est emportée, par sa façon de vivre. L'Église vit exactement de la même façon que le monde, et se comporte et agit exactement pareil, et ainsi de suite et prétend être l'Église. Vous n'y pouvez pas faire ça. Non, monsieur. Votre vie même prouve ce que vous êtes. 78 Ce que vous êtes. Comme je le disais au commencement, ce que vous êtes ailleurs est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, ce que votre corps céleste ou terrestre est là-haut, ce que votre corps céleste est quelque part ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Dans le pays spirituel, ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes ici. Si vous avez encore des pensées vulgaires et ces choses, dans le pays spirituel, vous avez des pensées vulgaires ici. Si vous avez toujours de la malice, de l'envie, des querelles, et que vous vous trouvez dans le pays spirituel avec cela, ça se reflète ici. Mais si le plus profond de votre être est devenu propre et purgé, cela montre que vous avez un corps là-bas qui est en, qui a été lavé et purgé, et cela fait effet sur la chair. Néhémie, le voyez-vous pas? Voyez, c'est cette terre-là. Si cette tente terrestre reste à détruite, nous en avons déjà une qui nous attend. Voyez-vous? Traduction. Darby. NDT. Expliquant la guérison et Jérus 54-02-16p, 37. Le diable essaie seulement de vous éloigner de la chose par la peur. Il essaie de repousser la chose ailleurs, en disant, un de ces jours, tu seras ceci. Vous l'êtes maintenant. Maintenant, nous sommes fils de Dieu. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les puissances aux cieux et sur la terre. Vous voyez? Maintenant, nous l'avons. Pas dans le millénium. Nous n'en aurons pas besoin alors. Nous l'avons maintenant. Nous sommes. Maintenant même nous sommes des fils de Dieu. Ce que nous serons un jour n'a pas été encore révélé, mais nous savons que nous serons semblables à lui. Ce que vous êtes ici est une réflexion de ce que vous êtes ailleurs. Ce qu'il a appelé, il les justifie. Est-ce exact? Ce qu'il a justifié. Il les a glorifiés. Déjà dans la présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ah là là! N'était-ce pas profond? Très bien. Nous allons découvrir si c'est vrai ou pas. Si ce Satan terrestre reste à détruite, nous en avons une qui nous attend déjà. Est-ce exact? C'est exact. Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes là-bas, c'est une réflexion. Ici, ce que nous sommes ici, est une réflexion de ce que nous sommes ailleurs. Ainsi, si vos œuvres sont mauvaises, vous savez d'où cela vient. Vous savez où votre autre corps attend. Question et réponse COD 0301-1954 soir P, 97. Ce que vous êtes, ici. Saisissez bien ceci maintenant. Je vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est un signe que vous êtes quelque chose quelque part. Vous avez toujours voulu être dans la perfection, vous les chrétiens. Il existe une perfection, et cette perfection n'est pas dans cette vie. Mais chaque homme et femme ici qui est chrétien, chaque personne qui ici est chrétien est maintenant déjà glorifié dans la présence de Jésus-Christ. Et vous avez un autre corps. Vous n'allez pas la voir un de ces jours. Vous l'avez maintenant même. Maintenant même, il existe un autre corps qui vous attend si celui-ci devait périr. Puissiez-vous examiner cela? Étudiez cela un instant. Savez-vous que chacun de nous peut se retrouver dans l'éternité avant que le soleil se lève demain? Maintenant, si vous n'êtes pas chrétien, mon ami, il ne m'y reste qu'une chose pour vous. Vous devez passer par là. Si vous êtes sur cette route, vous devez passer par cette route. Si vous êtes un grain de maïs, vous produirez du maïs. Si vous êtes grain de tronc, vous produirez la vie du grain de tronc. Maintenant, si vous apparteniez à une église quelque part qui n'est mis, c'est pas et n'enseigne pas, et vous laisse seulement venir à l'église et être un membre de l'église. Vous dites, eh bien, frère Branham, mon église enseigne que nous devons accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Si votre vie ne m'y suit pas, vous n'y êtes pas encore arrivé. Donc, si vous attendez avec ferveur ce que votre foi ou révélation vous a dit, alors votre vie le reflètera, et ce sera votre centre d'intérêt, et votre attente sera centrée sur cette seule chose. Et ainsi votre vie sera consacrée à ce qui vous a été révélé. Et c'est-à-dire le sacrifice. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est-à-dire le sacrifice ultime et l'expression de l'amour. Où est-elle votre foi aujourd'hui? Se repose-t-elle dans le fait de vous amasser des trésors sur la terre? Où la tonne et la rouille détruisent? Où êtes-vous en train d'amasser des trésors au ciel où la tonne et la rouille n'aiment ni détruisent pas? Où se repose votre foi aujourd'hui? Où se repose votre révélation? Cela se reflète dans la vie que vous menez. Inclinons nos têtes et nos cœurs dans la prière. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, février 2010. Veuillez adresser toute correspondance, ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site internet à briancocourec@yahoo.com.